si vous voulez, pendant ce passage, où je resterai quand même 3 jours à la manière de l'Évangile, c'est-à-dire je suis arrivé ce soir, je resterai demain, et après-demain, je ne sais pas exactement quand je devrais partir à Saint-Jodard, mais on aura quand même, je crois, 3 conférences, malgré que ce soit le temps des vacances, mais c'est d'ordre spirituel. On fait des vacances au point de vue intellectuel et au point de vue spirituel, on continue. Et même pendant les vacances, on doit faire encore plus, si on le peut, si on n'est pas trop pris par le travail, qu'on essaie, au point de vue spirituel, d'intensifier la lecture de l'Écriture. Le temps de l'oraison, le temps de la prière. Ceux qui peuvent travailler intellectuellement, qu'ils le fassent, c'est bien évident. Mais pour tout le monde, ce n'est pas toujours commode, puisque de fait, il y a ce travail manuel. Alors si vous voulez, nous allons continuer pendant ces quelques jours à entrer dans l'Évangile de Saint Jean. Je reprends rapidement pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Nous essayons de ponctuer l'Évangile de Saint Jean pour mieux saisir l'intention profonde de l'Esprit Saint dans cet écrit qui est sans doute le dernier écrit révélé. Alors, nous avons vu le prologue, les 2 premiers moments si importants après le prologue, la grande attente de Jean-Baptiste qui termine l'Ancien Testament, et auprès de Jean-Baptiste, le choix des premiers apôtres. Jésus ne commence sa vie apostolique qu'avec les apôtres. Et ceci caractérise l'évangile de Saint Jean. Nous avons ensuite la vie apostolique de Jésus. Et nous sommes dans le premier moment de la vie apostolique de Jésus, c'est-à-dire cette première période que je crois qu'on peut dire les éclosions, les grandes éclosions de la vie apostolique de Jésus. Éclosion en ce sens où, de fait, on est comme en présence de mystères de joie. Les exigences humaines et les exigences divines vont ensemble. C'est ça le propre des mystères de joie. C'est quand vous avez l'impression que Dieu a les mêmes intentions que vous. C'est merveilleux comme découverte. Hein ? Tandis que dans les mystères douloureux, vous avez l'impression que les voies de Dieu ne sont pas tout à fait les mêmes que les nôtres. Et alors, ça peut être le glaive. Et dans les mystères de gloire, alors on est comme au-delà, on est dans l'unité profonde. Je crois qu'on peut ponctuer l'évangile de Jean, non pas en mystère de joie, mystère de douleur et mystère de gloire, bien que de fait, c'est bien cela que nous voyons. Les mystères de joie, c'est ce premier moment du chapitre 2 au chapitre de fait 6, chapitre 2 au chapitre 6, les grandes éclosions, les grands mystères de joie. Alors il n'y a pas 5 mystères, il y en a 7. Il faut bien trouver quelque chose d'un peu différent. C'est parce que, de fait, Jésus est l'envoyé du Père qui vit sous la mouvance de l'Esprit du Père. Vous voyez, toute l'Apocalypse de Saint Jean est commandé par les 7 esprits. Et c'est toujours le chiffre 7. Et certains exégètes ont découvert que dans l'évangile de Jean, on retrouve le chiffre 7. Ce que je crois. C'est assez net, vous allez le voir progressivement, c'est assez net que lorsqu'il s'agit de ce moment des éclosions de la vie apostolique de Jésus, des prémices, vous trouvez 7 moments. Et on peut ponctuer ces 7 moments. Je les ponctue de cette manière, en disant d'abord le cycle de l'agneau. Le cycle de l'agneau, Ce sont les mystères de miséricorde. Et le cycle de l'agneau, c'est réservé au peuple d'Israël. C'est ça qui est de plus étonnant. C'est réservé au peuple d'Israël. Alors vous avez Cana, c'est en Galilée, ce sont des amis. C'est quelque chose de très particulier, puisque c'est Jésus au milieu de ses amis. Et vous voyez bien le mystère de joie, c'est que nous sommes dans des noces et que, manquant de vin, Jésus fait le complément. Les exigences de Dieu vont dans le sens des exigences humaines. C'est bien cela. Et Jésus convertit l'eau en vin et donne avec surabondance le vin. Vous avez ensuite l'entretien, vous avez ensuite, je veux dire, la purification du temple. Et la purification du temple, c'est encore réservé à Israël. C'est un geste de colère. Alors vous allez dire, la joie est un peu lointaine. Bien que la joie domine, parce que à travers ce geste de colère, Jésus rétablit l'ordre qu'il doit y avoir dans le temple. Il chasse les vendeurs du temple pour bien nous faire comprendre que le temple est réservé à son Père. Et troisième moment, réservé encore à Israël, Jésus face à Nicodème. Trois gestes de miséricorde. Et les trois premiers gestes de miséricorde de l'agneau. Vous avez ensuite le cycle de l'époux. Et ceci est ponctué par Jean-Baptiste. Jean était disciple de Jean-Baptiste et l'Esprit-Saint a voulu montrer combien Jean-Baptiste jouait ce rôle important. C'est lui qui a découvert en premier lieu l'agneau. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui qui découvre en second lieu que l'agneau est bien l'époux. Celui qui a l'épouse est l'époux. Et nous avons alors ce cycle de l'époux. Jésus rencontre la Samaritaine. Je crois que là, c'est facile à comprendre. C'est le cycle de l'époux parce que toujours les rencontres auprès du puits sont nuptiales. Et on voit très bien ce crescendo divin qui est très particulier. Le serviteur d'Abraham rencontre celle qui sera l'épouse d'Isaac. Il rencontre Rebecca. Nous avons ensuite Jacob qui rencontre Rachel. Alors là, c'est très très différent. Jacob a le coup de foudre pour Rachel. Quelque chose d'inouï. C'est montré dans l'Écriture d'une manière très belle. Et puis ensuite, Moïse rencontre son épouse aussi, toujours auprès du puits. Et puis Jésus rencontre la Samaritaine. C'est assez étonnant, ces rencontres auprès du puits. Et c'est toujours le même mot de passe, donne-moi à boire. De sorte que là, c'est assez facile de comprendre que, de fait, nous sommes en présence du premier geste de Jésus comme époux, premier dialogue avec la Samaritaine. C'est plus difficile pour les deux autres. Jésus rencontre à Cana le petit Basileus de Capharnaüm qui vient plaider en faveur de son fils qui meurt. Et la troisième rencontre, c'est à Jérusalem, à la piscine de Bethsaida, où Jésus rencontre cet infirme qu'il a depuis 38 ans, le doyen de la communauté. C'est cet infirme à la piscine de Bethsaida. Je vous disais qu'il fallait toujours se rappeler, quand on trouve qu'une communauté est un peu lourde, que c'est quand même mieux que la piscine de Bethsaida. Non, parce que c'est quand même un peu plus léger que la piscine. Parce que c'est vrai, dans cette communauté, c'est assez effrayant. Tous n'ont qu'un seul désir, c'est d'en sortir. Le bien commun de cette communauté, c'est d'en sortir, et le plus vite possible. C'est pour ça que dès que l'eau est agitée, on s'y précipite à toute vitesse pour pouvoir sortir de cette communauté. Et c'est le doyen de la communauté, cet infirme que Jésus voit en premier lieu. Je crois que si on est attentif à ces trois moments, on peut dire que nous sommes en présence de Jésus qui se révèle à nous comme l'époux. C'est-à-dire qui nous manifeste la jalousie de l'amour de l'époux. La jalousie de l'amour de l'époux, c'est de dépasser toutes les frontières. La miséricorde, dans son exercice, elle est liée au peuple d'Israël. Tandis qu'au contraire, l'amour jaloux de l'époux brise les frontières. C'est la Samaritaine, c'est le petit basileus de Capharnaüm, et c'est la piscine de Bethsaida. Jésus brise les frontières. Il, dans son amour, et ça c'est peut-être très très beau pour nous à saisir ce que c'est que l'amour de l'époux, la théologie de l'amour de l'époux, on devrait la découvrir à travers ces trois moments. Parce que c'est le propre de la jalousie de l'amour de brûler tout ce qui fait des limites, tout ce qui est d'ordre conventionnel, tout ce qui arrête et empêche d'aller jusqu'au bout. La miséricorde ne peut pas agir de la même manière. C'est très curieux cela. Parce que nous ferions facilement l'inverse. Nous aurions dit assez facilement que la jalousie de l'époux est réservée à Israël. Et la miséricorde, elle dépasse les frontières. Quand on dépasse les frontières, c'est la miséricorde. C'est quand même très curieux cet ordre que nous voyons ici. Je crois qu'on doit être attentif à cela. Le propre de la sagesse, c'est d'ordonner. Jésus agit sous le souffle de l'Esprit-Saint. Donc, l'ordre qu'il nous manifeste est un ordre qui nous aide à comprendre ce que c'est que la sagesse de Dieu. Or, cet ordre nous déroute complètement. Nous aurions donné un conseil au Saint-Esprit, on aurait dit juste l'inverse. Je crois, tous, la jalousie de l'amour réservée aux intimes et la miséricorde pour les autres. Vous savez que très facilement, nous faisons une petite une espèce de division comme ça. Nous disons que la miséricorde, c'est pour les pauvres types. Et l'amour, c'est pour tous ceux que nous choisissons et que nous aimons. Et nous faisons un partage des deux. Ça, c'est pas très chrétien. Mais c'est très difficile de faire l'inverse. De dire que la miséricorde, c'est pour ceux que nous connaissons le mieux, et la jalousie de l'époux, c'est pour ceux que nous connaissons moins bien. C'est pas commode, ça. Et au fond, c'est ce que fait Jésus. C'est ça qui est très curieux. Donc là, ça doit nous poser un point d'interrogation. Comment se fait-il que Jésus, dans sa vie apostolique, où il est mené par l'Esprit-Saint, nous montre cet ordre inverse que nous ferions, nous, spontanément. Je dirais même, au point de vue théologique, on dirait ça normalement. C'est très curieux, cela. Il faut se demander pourquoi. Chaque fois qu'on est devant quelque chose qui nous déroute, au point de vue de l'Écriture, et il y a beaucoup de choses qui nous déroutent, hein, nous essayons d'interroger le Saint-Esprit. Nous essayons de comprendre. Je ne crois pas que, je n'ai pas vu chez les pères de l'Église, je ne les ai pas tous lus sur Saint Jean. J'aurais bien aimé tous les lire sur Saint Jean. Si vous, vous voyez, dites-le moi, parce que c'est intéressant. Voir si un père de l'Église a noté ça. Je ne crois pas que Saint Augustin l'ait noté. Comment la miséricorde est réservée au peuple d'Israël et la jalousie de l'amour fait éclater les limites. On comprend très bien que la jalousie de l'amour fait éclater les limites. Ça, on comprend très bien. Mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est que c'est d'abord la miséricorde, puis après l'amour. Et que la miséricorde est réservée à Israël, et que l'amour est réservé au pauvre type, hein. La Samaritaine, c'est difficile d'aller un peu plus bas. La sœur séparée, donc au point de vue de la foi, c'est pas tout à fait juste. Quand on meurt, on n'en parle pas. N'est-ce pas? Et elle est réduite à la corvée d'eau en plein midi. réduite à la corvée d'eau en plein midi. Il n'y a plus grand-chose d'humain. Sa seule fierté, c'est d'avoir une cruche. Et c'est celle-là que Jésus, dans son amour jaloux d'époux, regarde. L'enfant qui agonise. Alors là, on comprend qu'un enfant qui agonise, c'est au-delà de toutes les frontières. Si on a un cœur humain, un enfant qui agonise, c'est un enfant qui agonise. Et ça touche directement le cœur de l'époux. Et l'infirme à la piscine de Bethsaida, ça c'est pas au-delà de toutes les frontières. C'est une communauté très spéciale d'infirmes, de rejetés, d'excommuniés, de ceux qu'on considère comme indignes d'aller au temple. Et c'est cela que Jésus regarde le jour du sabbat. Et c'est le jour du sabbat que Jésus guérit cet infirme. C'est très beau de regarder ces trois situations limites de l'humanité. Je vous l'ai dit, ça, il faut essayer de le comprendre. C'est les trois situations limites de l'humanité. La situation limite de la femme, elle n'aime plus et elle n'est plus aimée. La situation limite de l'enfant, c'est d'agoniser, parce qu'un enfant, c'est une promesse de vie. Et il n'y a rien de plus terrible que l'agonie d'un enfant, je crois. C'est la chose la plus abominable. C'est dur d'assister à l'agonie d'un vieillard, c'est dur d'assister à l'agonie d'un blessé, mais d'un enfant, c'est encore plus terrible. Parce que c'est contraire à la nature, hein, l'agonie d'un enfant. Et l'homme, c'est celui qui ne peut pas travailler, il est infirme. Il est dans une communauté où il n'y a absolument aucune charité. Il est dans une communauté où chacun essaie de s'en tirer comme il peut. Et le mieux possible. Et le mieux possible, c'est-à-dire hein, de laisser les autres par derrière. C'est dur pour un homme d'être réduit comme l'infirme. 38 ans d'infirmité dans ce milieu. Situation limite de l'homme. Je crois que quand l'homme ne peut plus travailler, c'est une situation limite. C'est curieux. Pour l'homme, c'est très net. Hein. Pour la femme, c'est de ne plus aimer et de ne plus être aimé. Et pour l'enfant, c'est l'agonie. C'est beau comme théologie hein, des situations limites. Et ces situations limites nous font comprendre la jalousie de l'époux. Pour que la jalousie de l'époux nous soit révélée, il faut que Jésus regarde la misère de l'homme dans son plus grand absolu. Cette misère de l'homme, il est venu pour cela. Et c'est là où on découvre comment Jésus est l'époux. C'est-à-dire comment il se donne entièrement et totalement. Comment il ne garde rien pour lui. C'est bien ça, la jalousie de l'époux. C'est d'aimer jalousement, mais aimer jalousement non pas pour lui, mais aimer jalousement en se donnant pleinement et totalement, sans rien garder. Troisième moment que nous allons voir maintenant, c'est Jésus qui va lui-même se révéler. Alors je crois que ça, c'est aussi très important pour nous. Chapitre 5, verset 19. Dans ce contexte de lutte, Jésus va se révéler. Alors vous avez donc les trois grandes lumières de ce début de l'évangile de Saint Jean. Jésus agit comme l'agneau. Jésus agit comme l'époux. Jésus agit en fils bien-aimé du Père. Les deux premiers moments sont éclairés par Saint Jean, par Jean-Baptiste. Et le troisième, c'est Jésus lui-même qui se révèle. Je crois que nous saisissons au point de vue théologique là ce qui caractérise l'évangile de Saint Jean, comparativement au synoptique. c'est-à-dire comparativement à Matthieu, Marc et Luc. Jean montre Jésus dans ses trois grands aspects, l'agneau, l'époux, le fils bien-aimé du Père. Vous voyez, ce n'est plus du tout le point de vue prophète, roi, prêtre. Il faudra se demander pourquoi, vous voyez, poser des tas de points d'interrogation, hein, c'est important, on ne les résout pas tout de suite, mais on pourra les résoudre progressivement. Pourquoi, de fait, Jean ne suit plus cet ordre qu'on voit beaucoup plus nettement dans les synoptiques, il est prophète, il est roi, il est prêtre. On voit l'agneau, l'époux, le fils bien-aimé du Père. Jésus prit donc la parole et leur dit, « en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. » Nous allons avoir ici un très grand discours, comme ces grands discours qui sont dans l'Évangile de Saint Jean. C'est le second, hein. Il faut les noter progressivement. Hein. C'est le second, le premier c'est avec Nicodème. Avec la Samaritaine, c'est une conversation. Ce n'est pas un discours au sens absolu. C'est un discours, c'est sûr, mais ce n'est pas tout à fait du même ordre. Ces grands discours de Jésus, en Saint Jean, sont toujours ponctués « Amen, Amen ». En vérité, c'est très difficile à traduire, mais c'est « Amen, Amen ». C'est le langage propre de Jésus. Jésus ne parle pas comme les prophètes. Jésus parle avec autorité. Et c'est, je crois, ceci qui est bien montré quand il dit « Amen, Amen ». En vérité, je vous le dis. Il parle donc au nom des trois personnes divines. C'est bien ce qui était dit dans le dialogue avec Nicodème. Nous parlons de ce que nous savons. En vérité, je te le dis. Personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir. Et Jésus souligne que, à Nicodème, il souligne, je te le dis, c'est de ce que nous savons que nous parlons, et de ce que nous avons vu que nous témoignons. Et notre témoignage, vous ne le recevez pas. Donc, le « en vérité » nous fait comprendre que, de fait, Jésus parle comme celui qui a autorité, parce qu'il voit. Quand je ne vois pas et quand je suis dans la foi, je ne parle pas avec autorité. Je parle en m'appuyant sur l'autorité d'un autre, mais jamais sur ma propre autorité. Je parle avec l'autorité d'un autre, parce que je transmets une parole dont je n'ai pas l'expérience. Je transmets une parole qui me dépasse infiniment. Je la reçois dans la foi, mais je ne peux pas la transmettre avec l'autorité de celui qui a découvert. Celui qui a découvert quelque chose, il peut, à partir de l'expérience, avoir l'autorité, parce qu'il s'appuie sur l'expérience. Alors il a une certaine autorité. Celui qui a la foi, il ne peut pas s'appuyer sur son autorité. Il s'appuie sur l'autorité d'un autre. Et Jésus ici nous fait comprendre qu'il, lui, il a autorité pour parler des choses de Dieu. Le Fils a autorité pour parler du Père. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Voilà que Jésus parle avec autorité sur lui-même, en nous faisant comprendre qu'il est totalement relatif au Père. Je crois que cette affirmation première est très importante pour comprendre tout l'Évangile. Une des grandes clés. Je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père, car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Tout ce que Jésus fait, il le fait en regardant le Père. Voilà comment Jésus agit apostoliquement. Il agit donc d'une manière contemplative. Qu'est-ce que c'est qu'agir d'une manière contemplative ? C'est de regarder Dieu plus que ce que nous faisons. Quand nous commençons à regarder ce que nous faisons, nous perdons pied et nous ne savons plus où on va. Tandis que si on regarde Dieu, alors à ce moment-là, nous savons où nous allons. Et c'est dit, hein, explicitement. Jésus nous fait comprendre que son œuvre apostolique est une œuvre contemplative. C'est important pour nous de nous rappeler ça aujourd'hui, hein, puisque quand même, Jésus est notre modèle. Hein. Il est notre maître, et donc nous devons vivre comme lui-même vivait. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Car ce que fait celui-là, le Fils aussi le fait pareillement. Et voyez bien dans quelles circonstances Jésus dit ça. Il vient guérir cet homme, ce paralytique. Il vient de guérir le jour du sabbat. Et on a dit que ce qu'il faisait ne pouvait pas être de Dieu. Parce qu'on a opposé cet acte à l'exigence légale du sabbat. Et Jésus répond que tout ce qu'il fait, il le fait en regardant le Père. C'est donc le Père qui agit à travers lui. Il est vraiment l'instrument du Père. Hein. Autrement, il ne dirait pas ça. C'est l'attitude exacte de l'instrument. C'est intéressant au point de vue de la théologie, quand nous disons que l'humanité sainte du Christ est un instrument conjoint du Père. Vous voyez sur quoi ça s'appuie ? Ça s'appuie sur ce texte. Ce texte nous montre bien que Jésus est l'instrument conjoint de Dieu. Il agit à la manière du Père. Il agit en regardant le Père. Et tout ce qu'il fait, c'est le Père qui le fait à travers lui. Il n'est jamais original dans son action. Avis aux amateurs. Hein? Il n'est jamais original dans son action. Il est toujours celui qui regarde le Père pour laisser le Père agir à travers lui. Ça, c'est quelque chose de capital pour nous, hein, au point de vue apostolique. Si on ne regarde pas Jésus, on ne peut plus agir en instrument du Christ. Alors, on va expliquer ça, et c'est ça qui va être très beau, c'est là toute la théologie de la manière dont Jésus agit. Alors, vous voyez que c'est important pour l'interprétation de toute la vie du Christ à travers sa vie apostolique. On doit l'interpréter dans cette lumière-là. C'est Jésus lui-même qui nous montre comment on doit le regarder. Si vous le regardez de l'extérieur, vous ne comprenez rien du tout, et vous opposez à l'action du Christ l'aspect légal du sabbat. Et donc, vous comprenez tout de l'extérieur. Vous comprenez tout à contre-jour, et vous ne voyez rien du tout. Vous devez, pour essayer de comprendre l'action apostolique de Jésus, vous élever jusqu'au Père. Et c'est dans la lumière du Père que nous pouvons comprendre l'action apostolique de Jésus. Et c'est uniquement dans la lumière du Père. Et Jésus donne l'explication, le Père en effet aime le Fils. Voilà la clé. Toute la vie apostolique de Jésus dépend de cet amour du Fils à l'égard du Père. Une action de surabondance d'amour. Et c'est uniquement une action de surabondance d'amour. Jésus ne regarde pas en premier lieu la loi. Évidemment, c'est ennuyeux pour ceux qui regardent en premier lieu la loi. Ceux qui regardent en premier lieu la loi ne comprennent rien à l'action du Christ. Toutes les actions du Christ les scandalisent. Eux regardent en premier lieu la loi. Oui, Jésus renverse complètement la perspective. C'est ça qui est important. Regarder la loi en premier lieu, c'est une action juridique et morale. Ça, c'est l'ancienne alliance. La nouvelle alliance, elle se comprend d'une manière théologale. Et elle se comprend d'une manière théologale parce qu'il faut regarder en premier lieu le Père. Et nous regardons le Père à travers la foi, l'espérance et l'amour. Le Père, en effet, aime le Fils. Il lui montre tout ce qu'il fait. Et lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci pour que vous soyez dans l'admiration. Pour que vous soyez étonnés. On voit bien cette coopération du Père et du Fils, c'est bien une coopération de celui qui est comme l'instrument du Père, mais cet instrument, c'est un instrument d'amour. C'est à l'intérieur d'un amour que Jésus agit de cette manière. C'est l'amour que le Père a pour le Fils. Et parce que le Père aime le Fils, il lui montre tout. Pas de secret entre le Père et le Fils. Il lui montrera des œuvres plus grandes encore. C'est évidemment l'allusion directe à la croix. C'est aussi très important, vous voyez, pour justifier l'exégèse de saint Augustin. Pour comprendre l'action du Christ, il faut regarder le mystère de la croix. Puisque l'action de la croix, l'œuvre de la croix, c'est l'œuvre par excellence de Jésus. Il est venu pour cela. Si c'est l'œuvre par excellence de Jésus, c'est dans la lumière de la croix que nous devons comprendre toutes les autres œuvres. Puisque toujours l'imparfait se comprend par le parfait. Ils sont scandalisés devant cette œuvre du Christ. Cette œuvre qui est encore imparfaite, qui n'est pas la plus grande œuvre que Jésus a fait, guérir un paralytique le jour du sabbat. Ce n'est pas la plus grande œuvre. La plus grande œuvre que Jésus fera sera le mystère de la croix et de la résurrection. C'est la croix liée à la résurrection, la plus grande œuvre que Jésus fera. Et donc tout ce que Jésus fait doit être vu dans la lumière de la croix et de la gloire pour que nous puissions comprendre toute l'activité de Jésus, toute son activité apostolique, dans sa pleine lumière. Et Jésus continue. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre. Vous voyez, tout de suite, c'est pas étonnant, c'est bien le mystère de la résurrection. Tout de suite, l'œuvre plus grande et en immédiatement, Jésus explicite, de même en effet que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Et en premier lieu, lui. Je dépose ma vie et je la reprends quand je veux. Et c'est pour cela que le Père m'aime. Et alors nous voyons bien ici, hein. De même en effet que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Jésus veut nous faire comprendre que le Père remet au Fils toute autorité et tout pouvoir. La plus grande autorité du Père, elle nous est manifestée dans la résurrection. Relever les morts et les faire vivre. C'est vrai que c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. C'est de ressusciter un mort. Et Jésus montre que ce pouvoir du Père, le Fils le possède également. Ainsi, le Fils fait vivre qui il veut. C'est aussi très important pour comprendre les liens, vous voyez, entre le Père et le Fils. Vous avez ce lien de dépendance, hein, si j'analyse, ce lien de dépendance premier, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Ce lien de dépendance se fond dans un amour. Et parce qu'il se fond dans un amour, de fait, rien n'est exclu. Toute œuvre dépend d'un amour. Et comme il y a cet amour foncier premier du Père à l'égard du Fils, cet amour du Père à l'égard du Fils n'exclut et ne limite aucune œuvre jusqu'à la résurrection. C'est à cause de l'amour du Père à l'égard de son Fils et du Fils à l'égard de son Père que le mystère de la croix et le mystère de la résurrection existent. Donc, dans cet amour plénier, toutes les œuvres doivent être vues dans cette lumière. Et pour bien nous faire comprendre cela, il nous montre que toute l'autorité du Père et de la toute-puissance du Père est communiquée au Fils. De même, en effet, que le Père relève les morts et les fait vivre, ainsi le Fils fait vivre qui il veut. Car le Père ne juge personne. Tout le jugement, il l'a remis au Fils. Voilà bien l'autorité. L'autorité consiste à juger. Il ne faut pas l'oublier. C'est dans le discernement et le jugement que vous manifestez votre autorité. Celui qui ne discerne jamais et qui ne juge jamais n'exerce jamais son autorité. C'est le discernement et le jugement, discerner ce qui est bon de ce qui est mauvais, discerner ce qui est convenable de ce qui ne l'est pas, discerner ce qui est en convenance avec la sagesse de Dieu et ce qui n'est pas en convenance avec la sagesse de Dieu, c'est là où l'autorité s'exerce et se manifeste. Car le Père ne juge personne, tout le jugement, il l'a remis au Fils. Donc il a remis au Fils la totalité de son autorité. L'autorité du Fils, le Père s'efface devant le Fils et lui remet tout pouvoir et toute autorité. Donc, tout le jugement, il a remis au Fils pour que tous honorent le Père, tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Vous savez bien que honorer quelqu'un, c'est manifester sa dignité. Et on honore chacun en fonction de sa dignité. Ici, il nous est montré qu'il faut honorer le Fils comme on honore le Père. Ce qui est très important. On ne peut plus mettre entre parenthèses le Fils. On ne peut plus honorer le Père qu'en honorant le Fils. Pourquoi ? Parce que le Père a remis au Fils toute autorité. Si on n'honorait pas le Fils comme on honore le Père, on ne voudrait pas reconnaître que le Père a remis au Fils toute autorité. Pour que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Ceci, c'est aussi très important. Point de vue de certains œcuménismes qui disent en face de ceux qui ne croient pas en la divinité du Christ, adorons tous ensemble le même Père. Oui, ils ne vont pas le faire. C'est dit, hein, c'est nettement dit, je ne peux plus le faire. Depuis que le Fils est venu au milieu de nous, je ne peux plus honorer le Père sans honorer le Fils. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Vous voyez, je crois que cette première partie, c'est très théologique ça, hein, c'est magnifique, il faut souvent y revenir, c'est très très beau, c'est très fort, parce que c'est la relation intime du Père et du Fils qui nous sont révélées. Révélation d'abord dans la mission de Jésus, la source de cette mission, c'est l'amour, et cet amour ouvre cette mission à la plénitude jusqu'au mystère de la gloire. Donc là, nous découvrons bien ce que représente exactement les liens entre Jésus et le Père. Ce n'est pas simplement des liens comme un envoyé. C'est les liens du Fils bien-aimé en qui le Père a mis toutes ses complaisances. Et quand je veux comprendre cette alliance du Père à l'égard du Fils, en qui il a mis toutes ses complaisances, il faut revenir à ce texte qui nous montre comment il y a une action commune fondée dans l'amour, comment le Père remet toute autorité, toute lumière au Fils. Et le Père s'efface devant le Fils pour que tous honorent le Fils. Second moment, en vérité, verset 24. Je crois qu'on peut ponctuer de cette manière-là. Vous allez voir, ce n'est pas toujours commode, mais c'est quand même très intéressant de voir cette ponctuation qui est donnée dans le texte lui-même, n'est-ce pas ? En vérité, je vous le dis. Que celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Et il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Très bref. Je pourrais dire que le premier moment, c'est le Fils qui nous révèle le Père. Le second moment, c'est le Fils qui se présente lui-même. Ponctuation trinitaire. En vérité, je vous le dis, que celui qui écoute ma parole et croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. Donc, c'est le Fils qui est mis en premier lieu. Écoutez la parole de Jésus. Et en écoutant la parole de Jésus, croit celui qui l'a envoyé. Celui-là a la vie éternelle. Alors là, nous retrouvons le lien typiquement johannique entre la foi et la vie éternelle. Et ça, c'est très important, parce que ça montre comment la foi chrétienne est contemplative. Elle est essentiellement contemplative, puisque la vie éternelle, c'est de me connaître, hein, c'est dit textuellement. C'est de connaître Dieu, donc de le contempler. Donc, on peut dire que la foi chrétienne implique tout de suite cette contemplation. Elle implique la vie éternelle. Et si on croit et qu'on a la vie éternelle, il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Voyez comment est repris ici cette affirmation qui est dite déjà dans Abraham, la foi justifie. On est justifié par la foi. C'est la foi qui nous purifie. C'est très important de se rappeler ça. Voyez, quand on voit qu'on a fait des bêtises, hein, quand on voit qu'on a été lâche, qu'on a été faible, qu'on a été paresseux, qu'on n'a pas fait ce qu'on a vu, qu'on a manqué de charité, bien, comprenons que la foi qui nous donne la vie éternelle justifie. Supplions l'Esprit Saint à ce moment-là de faire un acte de foi plénier dans le Christ Sauveur. Et cet acte de foi plaigné dans le Christ Sauveur, nous justifie. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il faut vivre cela, n'est-ce pas ? Nous le disons au point de vue théologique, mais il faut le vivre. La foi justifie. On n'est pas justifié par les œuvres. Mais trop facilement, on voudrait se purifier en faisant une œuvre de pénitence, hein. J'ai été bête, j'ai été paresseux, j'ai manqué de charité. Faisons vite une pénitence. Mais non, faisons un acte de foi. C'est la foi qui justifie. Mais toujours, ce mystère de la vie théologale, hein, qui est manifesté en premier lieu. Faire une pénitence, c'est encore du point de vue moral. C'est très bien, il faut de temps en temps faire des pénitences. Mais ce n'est pas premier dans notre vie. Ce n'est pas premier. Ce qui est premier dans notre vie, c'est de remonter à la source. Et ça, c'est la vie théologale. C'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus grand. Et c'est cela que notre Seigneur nous demande. Hein. C'est lui qui nous le dit. Ce n'est pas une interprétation. C'est lui qui directement nous fait comprendre cela. Tout l'évangile de Saint Jean ne peut se comprendre qu'au niveau théologal. Si vous lisez l'évangile de Saint Jean dans une lumière morale, vous n'y comprenez rien. L'évangile de Jean ne supprime pas la morale, c'est bien évident, mais il va au-delà. Il nous donne ce regard extrêmement pénétrant qui est le regard de la contemplation. Une foi qui justifie, c'est une foi vivante, c'est une foi contemplative. La foi contemplative justifie. Troisième moment, vous voyez comme c'est bref ce second moment. C'est Jésus qui se présente. Et qui se présente comme celui qui est source de la vie éternelle et qui justifie. C'est le mystère de la rédemption qui nous est donné là avec une force très intense dans ce verset 24. Verset 25, « en vérité, je vous le dis, qu'elle vient l'heure, ici maintenant, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui auront entendu vivront. » Normalement, après le Père, le Fils, c'était l'Esprit Saint. Donc ce troisième moment est comme réservé au lien de Jésus et de l'Esprit Saint. Mais vous allez voir que c'est beaucoup plus caché là, c'est beaucoup moins explicite. Dans l'évangile de Jean, on parle explicitement du paraclet qu'à partir du chapitre 14. Avant, ça reste voilé. Mais c'est quand même, je crois ici, le lieu de découvrir le lien avec l'Esprit Saint. En vérité, je vous dis qu'elle vient l'heure. L'heure, c'est où Jésus nous donne son esprit. C'est ça l'heure. Il remet son esprit entre les mains du Père pour que nous puissions vivre de son esprit. Je vous le dis qu'elle vient l'heure. Et c'est maintenant. Et l'heure, c'est où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui entendront vivront. Mystère de la résurrection. Mystère de la vie plénière. Mystère où, de fait, nous découvrons comment Jésus est source pour nous du paraclet. De même, en effet, que le Père a la vie en lui-même, ainsi a-t-il donné pareillement au Fils d'avoir la vie en lui. Et il lui a donné pouvoir pour exercer le jugement parce qu'il est Fils d'homme. N'en soyez pas étonnés, parce qu'elle vient l'heure où tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix. Ils sortiront ceux qui auront fait le bien pour une résurrection de vie et ceux qui auront commis le mal pour une résurrection de condamnation. Je crois que tout ce dernier moment de ce grand discours, nous y reviendrons demain, c'est vraiment cette révélation de Jésus qui nous donne en plénitude la nouvelle vie. Et la nouvelle vie, c'est l'Esprit Saint qui vivifie.